France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, je vous propose un apéro, c'est ma tournée, où j'invite une lanceuse d'alerte sur les atteintes à l'état de droit. Elle est aussi secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Elle est complètement badass, c'est la magistrate Magali Lafourcade. Bonjour Magali Lafourcade. Bienvenue, je vous accueille sur le perron.
Bonjour Janine Vardenbecker, je suis hyper contente de vous voir.
C'est vrai?
Ah bah vous êtes une institution à la maison.
Mais non, mais si.
Je suis mariée avec un Belge.
Ah, c'est pour ça. Ça part très très bien cette interview. Et pour autant, je serai intransigeante, objective.
Magistrale.
Bah oui, face à une magistrate lanceuse d'alerte, je vais pas trop moufter quand même. Allez, venez, je vous invite à vous asseoir dans mon bistrot.
Charline Vaninacker. Bistroscopie sur France Inter.
Dossier Lafourcade, donc. Nom, prénom, âge, profession. Je ne vais pas vous infliger ça, je vais le faire moi-même. Vous êtes magistrate, Magali Lafourcade, et lanceuse d'alerte sur les atteintes à l'état de droit. Vous avez débuté comme juge d'instruction à Meaux, et depuis 10 ans, vous êtes secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et je vais décomplexer tout le monde d'un coup, parce que vous avez failli redoubler votre CP. Vous aviez, paraît-il, des difficultés de lecture.
Oui, tout à fait.
Et vous êtes devenue magistrate.
Et je suis devenue même docteur en droit. Donc, en fait, tout est possible. Et s'il y a quelque chose que j'aime bien faire passer à mes enfants et à tous les jeunes que je rencontre, c'est qu'il ne faut jamais penser que le destin est figé et qu'on est assigné à une place, parce qu'en fait, on peut exister de 1000 façons. C'est vraiment à partir de la 4e que j'ai eu le déclic. Donc pendant longtemps, j'ai eu l'impression que j'étais sans intérêt.
Qu'est-ce qui s'est passé en 4e?
Ah ben, je crois que c'est une rencontre avec une enseignante qui était extraordinaire, qui c'était ma prof de français, qui m'a montré les figures de style, hein, le jeu à travers la langue. Et à partir de là, je me suis dit que derrière les apparences de choses qui peuvent être un peu rébarbatives, il peut se passer énormément de choses. Et donc à partir de là, j'ai eu l'impression d'avoir une curiosité insatiable. Et comme chez moi, il y avait des que sais-je, et ben j'ai dévoré les que sais-je de la maison et j'ai eu l'impression d'ouvrir des champs comme si avant j'avançais dans un tunnel et que d'un coup la curiosité était partout, une curiosité intellectuelle vraiment complète. Et quand j'ai écrit mon que sais-je sur les droits de l'homme, alors là j'avais l'impression de boucler la boucle et que peut-être une petite fille, une ado lirait ça et se dirait mais en fait l'injustice est insupportable et il faut y aller quoi.
La clé, les figures de style.
Ouais. C'est vrai.
Vous publiez un livre qui s'intitule « La justice en procès », sous-titre « Les populistes à l'assaut de l'état de droit ». C'est paru aux éditions Les Petits Matins. Je voudrais commencer par une sorte de jeu. Qui a dit ? Qui a dit « C'est ma mort politique qui est réclamée ».
Ah, ça c'est Marine Le Pen.
Ouais.
Facile.
C'est un coup d'État judiciaire.
Alors là, il y en a plusieurs. Ah. Il me semble qu'on a Nicolas Sarkozy qui a eu une formule approchante. On a Henri Guénaud.
Voilà.
Et il me semble même qu'on a eu à un moment donné Monsieur Wauquiez, mais au moment de la loi Asile-Immigration.
Ah, j'avais noté Guénaud à propos du procès de Nicolas Sarkozy qui s'est tenu récemment. Il y est toujours d'ailleurs. Qui a dit « c'est la démocratie française qui est exécutée » ?
Je me demande si c'est pas Jordan Bardella, ouais, ou Marion Maréchal.
C'est Bardella, bien joué. Et tout ça est dans votre livre. Hein.
Oui.
Qui a dit « la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple » ?
Ah, je pense que ça, c'est Monsieur Mélenchon.
Oui, ouais, il y avait un petit indice. Et enfin, qui a dit « l'état de droit, c'est moi » ? Mais il y a un piège.
Personne.
Y a un piège. Pas encore, mais ça va venir. En 2024, le ministre de l'Intérieur, qui est alors Bruno Retailleau, dit, je le cite, « l'état de droit n'est ni intangible ni sacré ». Là, il y a un coup de tonnerre quand même. Quand est-ce qu'il a été créé et pourquoi est-ce qu'il est indispensable, cet état de droit qu'il faut donc redéfinir aujourd'hui ?
Alors, on ne peut pas dire qu'il a été créé, c'est-à-dire que c'est une longue maturation de toutes les grandes démocraties du monde qui ont façonné des principes de justice qui devaient être des principes surplombants. Le respect des minorités, le fait d'avoir droit à un procès équitable, de ne pas être incarcéré sur la seule foi du choix du prince. Tous ces principes-là ont vraiment maturé au fil des siècles et répondent à des grandes injustices, des grandes tragédies que l'humanité a traversées un peu partout dans le monde. Et donc, quand se sont façonnés ces grands principes, il y a eu aussi l'idée de faire cesser l'arbitraire. Et pour faire cesser l'arbitraire, il faut un équilibre des pouvoirs. Et cet équilibre du pouvoir s'accorde avec l'idée qu'on doit garantir un filet minimal de protection à des droits les plus fondamentaux de la personne humaine pour garantir sa dignité. Et ça, c'est quelque chose qui a maturé plutôt dans les siècles plus récents. Et tout ça façonne un socle qui est commun à toutes les grandes démocraties. Et donc l'état de droit, c'est un peu comme la table du bistrot. On peut changer la règle du jeu. Par contre, on ne peut pas changer la table, le socle. Sinon, on renverse notre café.
Mais alors, à quel moment la table bascule, quoi ? Parce que pour les populistes, le juge devient le coupable. On l'a entendu dans notre petit jeu.
Ouais. c'est très récent. C'est-à-dire qu'il y a une critique ancienne de gouvernement des juges qui est souvent mal comprise dans son acception actuelle. Mais pendant très longtemps, l'idée de ce socle qui ne doit pas bouger, qui est intangible, a été presque un totem qui faisait l'objet d'un consensus. Et ceux qui le contestaient étaient en dehors de l'arc républicain. Et c'est vraiment très récemment que des discours qui étaient considérés comme choquants ou marginaux sont devenus un peu au centre de la fenêtre d'Overton, donc cette idée des discours acceptables. Et quand Bruno Retailleau, tout juste nommé ministre de l'Intérieur, dit que l'état de droit est ni intangible ni sacré, il relativise les digues mises en place juste après la Seconde Guerre mondiale, qui sont des digues qui étaient vraiment extrêmement puissantes. Et quand il le fait, il n'est pas seul. C'est-à-dire que il y a 170 députés ou sénateurs LR qui font une tribune dans le Figaro pour dire qu'ils rejoignent cette conception. Et puis avant ça, dès 2023, il y avait eu l'autre ministre de l'Intérieur, celui qui était son prédécesseur, c'était M. Darmanin, qui avait annoncé qu'il ne respecterait pas des décisions de justice et s'en était réjoui. Donc on a quelque chose de très récent.
C'est pour ça qu'il a été promu ministre de la Justice aujourd'hui. Mais oui, mais écoutez, suivez un peu.
Il faut comprendre cette logique. Et donc, du coup, ces ministres qui portent ce discours-là, qui était avant considéré comme très choquant, aujourd'hui s'expriment de manière large et ça devient une ligne de partage partisan. C'est-à-dire que maintenant, comme les populistes utilisent tous nos concepts des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de droit, et retournent tout ça de manière assez brutale, ils utilisent la défense de l'état de droit comme si c'était presque de gauche, ou wokiste, ou je ne sais quoi, alors que pas du tout. Et donc, dans ce combat-là, on a beaucoup d'institutions comme la Commission nationale des droits de l'homme, mais aussi le CESE, qui en sont à le Comité économique, social et environnemental, qui, quand ils en sont à défendre l'état de droit, se disent, est-ce qu'on devient partisan, est-ce qu'on fait de la politique, alors que donc, les droits de l'homme, c'est toujours de la politique avec un P majuscule, parce qu'il s'agit de faire reculer la raison d'État. Mais défendre l'État de droit, c'est une position purement républicaine, citoyenne, démocrate, et donc ça n'est pas une logique partisane. C'est les ennemis de l'État de droit qui en ont fait un discours partisan, et ça c'est très inquiétant, et très récent surtout, et massif.
Ouais. Donc là, il y a un point de bascule en 2024, avec le ministre de l'Intérieur et cette phrase. Il y avait déjà quelques signes, par exemple, lors de l'affaire Fillon, il parle d'un double assassinat politique, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'à l'époque de l'affaire Cahuzac, par exemple, on ne remettait pas en cause l'état de droit. Et qu'est-ce qui se passe entre Cahuzac et Fillon pour que ça commence à ébranler la table, le socle ?
Je dirais que c'est même après Fillon. C'est-à-dire que Cahuzac, Fillon, à ce moment-là, on a la classe politique qui se désolidarise très nettement des personnages mis en cause. Et pour Fillon, on a même son directeur de campagne qui claque la porte en invoquant des raisons politiques et morales. Donc on a cette désolidarisation face à un François Fillon qui alors utilise la rhétorique de la victimisation et la rhétorique du complotisme. Vous vous souvenez du cabinet noir on l'a toujours pas trouvé.
Et à l'époque, vous le rappelez dans votre livre, Marine Le Pen dit « Nous, on ne pique pas dans la caisse ».
Nous, on ne pique pas dans la caisse. Cette phrase est fabuleuse. Il y avait aussi François Fillon qui parlait d'exemplarité, qui imagine le général de Gaulle mis en examen. Donc on avait ça. Et justement, le glissement, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que dans l'espace politique, plus personne ne porte la lutte contre la corruption. Il y a même un discours de déstigmatisation sous le registre de les assistants parlementaires européens, tout le monde fait ça, c'est pas si grave. Comme c'est abstrait, la démocratie, les financements illicites des campagnes. Et bien finalement, il n'y aurait pas de préjudice, alors que bien sûr, il y a des préjudices qui sont importants et qui sont très bien documentés par les économistes. Et donc, ce discours est à la fois un discours de déstigmatisation qui vise à ne pas créer de réforme, alors qu'après Cahuzac, on a créé le parquet national financier, la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Après Fillon, on a mieux encadré les emplois familiaux de collaborateurs au Parlement. Donc, il y a cet effet de solidarité au sein de la classe politique. Je ne dis pas que toute la classe politique se solidarise derrière ceux qui sont mis en cause, mais on voit tout à l'heure dans les phrases que vous citiez, Jean-Luc Mélenchon qui vient au secours de Marine Le Pen, c'est pas forcément tout à fait intuitif.
François Bayrou dit qu'il est troublé, par le procès Le Pen, etc.
Donc là, il y a un glissement qui est, très
Magali Lafourcade, vous êtes magistrate, vous allez pouvoir me dire... C'est une infraction, ça, quand même, de discréditer la justice. Comment est-ce qu'une infraction devient un propos qu'on peut entendre matin, midi et soir dans les médias?
C'est là où on voit aussi à quel point on est fragile et on se protège peu. Parce qu'en fait, vous avez le droit de critiquer la justice, mais vous n'avez pas le droit de porter le discrédit sur l'autorité judiciaire. Et puis, vous n'avez pas le droit non plus d'intimider les magistrats. Sauf que, et on n'a jamais eu autant de magistrats dans notre pays qui sont intimidés. On a un discours politique qui vraiment se lâche pour porter le discrédit contre la justice.
C'est pas qu'aux États-Unis, quoi.
Ah non, là, vraiment, on voit qu'en France, c'est très massif. Et face à ça, la justice a elle-même du mal à poursuivre les gens qui la discréditent parce qu'elle a l'impression d'être jugée partie. Et puis, pour protéger les magistrats, c'est très compliqué. Et on a un garant constitutionnel qui est le président de la République qui, lui, devrait monter au créneau quand il y a des atteintes, des noms qui sont balancés, avec tout ce que ça implique en termes de la boîte à haine qui est ouverte derrière sur les réseaux sociaux et des menaces aussi beaucoup plus substantielles parfois. Sauf que là, les magistrats ont beaucoup l'impression d'être seuls.
Ces populistes, vous l'expliquez dans votre livre, disent aussi la justice est trop laxiste avec les délinquants et trop sévère avec les politiques. On vous apprend pas à l'école de la magistrature que quand il y a mandat, faut pas embêter les élus, quoi. Je voudrais peut-être citer une phrase de votre livre qui m'a interpellée. Vous dites « Dans l'affaire Carlos Ghosn, Rachida Dati, mise en examen pour corruption et trafic d'influence, est présumée innocente, a formulé 42 recours et demandes d'actes tout au long de l'instruction, ce qui aurait eu pour effet de mobiliser pas moins de 28 magistrats. » Donc, en fait, eux, ils ont la possibilité de ralentir la justice, peut-être de l'encombrer, de...
Oui, alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on a entendu ces politiques nous expliquer que les magistrats français voulaient se les payer et, en gros, qu'il y avait une vengeance. Et quand on regarde ce que dit la Commission européenne, elle dit que la France a la justice la plus ineffective s'agissant de la lutte contre la corruption. Ce qui montre la lenteur de la justice française, c'est qu'elle a été désarmée. C'est ça qui l'explique, en tout cas. Donc, on a très peu d'enquêteurs spécialisés. C'est des contentieux où il faut avoir le cuir solide. Et les magistrats font de plus en plus l'objet d'attaques frontales et d'intimidations. Ce qui fait que vous disiez, voilà, on vous apprend pas à l'école de la magistrature. Mais je pense que tous les magistrats ont bien compris que ceux qui vont juger tel ou tel leader politique, leur vie sera scrutée. Dans l'affaire libyenne, la seule chose qu'ils ont réussi à trouver sur la présidente de l'audience, c'est qu'il y a 14 ans, elle avait manifesté contre une réforme d'un garde des Sceaux qui était dans le gouvernement alors que Nicolas Sarkozy était président de la République. Donc c'était quand même très ténu et c'était connu en plus. Donc on sait que ça va être très difficile et qu'on va subir des critiques, des propos diffamatoires, etc. Donc le message est clairement passé en termes d'intimidation.
Dites-moi, Magali Lafourcade, est-ce que votre modèle ou l'un de vos modèles, ce serait pas Eva Joly ?
Alors, oui, c'est amusant parce que je suis pas du tout d'une famille de juristes et pendant longtemps, j'ai caché à ma famille que je faisais du droit.
Ah bon ?
Ah ben oui, mais moi,
c'était mal vu,
secret de l'instruction, donc... Voilà, donc j'ai longtemps caché que je faisais une double formation.
Chez vous, le droit, c'était saltimbanque
Oui, c'était un petit peu... je viens d'une famille de scientifiques et c'était considéré comme pas très valorisé. Et j'avais lu un livre sur la vie d'Eva Joly et j'avais trouvé que c'était hyper intéressant. Donc ça m'est resté. Et donc quand je suis rentrée à l'ENM, c'était pour être juge d'instruction. C'était le seul boulot vraiment qui m'attirait et j'ai exercé ces fonctions avec passion. Et donc j'ai passé le concours et quand je l'ai rencontré assez récemment sur une table ronde sur la lutte contre la corruption, je lui ai dit « c'est votre faute !» Et alors elle est très amusante. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir aussi de voir son parcours, ses engagements et tout ce qu'elle fait encore maintenant.
Bien sûr. Et ça on peut le réécouter si vous le souhaitez car dans Bistroscopie, Eva Joly est passée par... notre bistrot. Vous sortez 7e sur 300 ce concours ?
Oui.
Oh,
oui.
Donc, quand même. Et vous devenez juge d'instruction à Meaux ?
Oui.
Qu'est-ce qui vous a plu à Meaux ? Parce que j'ai lu que vous aviez kiffé.
Ah oui, j'ai adoré parce que quand vous sortez de l'école à magistrature, vous pouvez pas de toute façon avoir tout de suite un poste à Paris. Et finalement, Meaux, c'était très bien parce que il y a de la délinquance financière puisqu'il y a tous les sièges sociaux qui sont à Marne-la-Vallée autour de Disney, d'Euro Disney. Il y a quelques mairies dysfonctionnelles en termes de détournement de fonds. C'est la route aussi de beaucoup de go-fast et donc il y a beaucoup de trafiquants qui passent par la Seine-et-Marne. Et il y a aussi, bien sûr, des campagnes avec des choses assez atroces qui s'y passent. Donc, on peut vraiment exercer la plénitude des fonctions de juge d'instruction qui s'attachent d'abord aux crimes et ensuite aux délits complexes. Donc, c'était une formidable école.
Il y aurait un dossier marquant ?
Oui, il y a un dossier qui m'a marqué. C'était un enfant qui avait été tué par ses parents dans une machine à laver. Et j'étais enceinte à ce moment-là et j'ai fait la reconstitution en étant vraiment très enceinte juste avant mon congé maternité. Donc celui-là, j'ai eu l'impression là qu'il fallait que je prenne du champ, que je fasse un peu autre chose. Sinon, j'ai eu un autre dossier qui m'a montré à quel point j'étais indépendante. C'était un meurtre de policier lors d'un cambriolage. Et là, on peut dire que j'ai dû résister à un certain nombre de pressions pour faire mon travail correctement et je me suis prouvé que j'étais digne de ce que la Constitution garantit pour les juges du siège.
Ah oui, ça a été un peu un thermomètre, vous vous êtes dit « Ah,
oui, parce
je suis capable de résister à cette pression ».
C'est assez étrange le moment où on devient magistrat, où on se sent magistrat et le moment où on comprend l'importance des garanties d'indépendance et qu'est-ce que ça traduit, puisque les services enquêteurs, eux, n'ont pas cette garantie-là. Donc c'est à vous d'être solide et d'encaisser les chocs pour pouvoir faire advenir la manifestation de la vérité dans le respect des procédures et tant pis pour la communication politique. Et dans ces moments-là, on se sent à la hauteur ou pas et là, je dois dire que je me suis construite aussi à travers ces dossiers où voilà, je sais que je suis tout à fait indépendante et ça, je me le suis prouvé, là, vraiment.
Magali Lafourcade, dans votre ouvrage La justice en procès, chaque chapitre débute par une citation de Robert Badinter. C'est une figure tellement tutélaire, il a disparu en 2024 et tout à l'heure, vous expliquiez que le point de bascule où les politiques populistes commencent à malmener l'état de droit, c'est 2024, plus ou moins. Je me suis dit, est-ce que la disparition de cette figure tutélaire Robert Badinter, elle peut jouer aussi ? Est-ce que ces gens qu'on a cités tout à l'heure, plutôt à la droite et à l'extrême droite, et Jean-Luc Mélenchon aussi d'ailleurs, Badinter n'étant plus là, ils se permettent ?
Alors, je pense qu'ils se permettent pour plusieurs raisons. Il y a bien sûr le fait que cette figure tutélaire est plus là, mais déjà avant, il était quand même un peu en retrait de la vie du débat public.
On sentait qu'il était là.
Oui, et puis il y avait encore beaucoup de références à lui. Mais c'est surtout au moment de sa panthéonisation, j'étais frappée de voir à quel point son héritage était détricoté, mais de manière très nette. Je crois que chacun doit prendre sa part, et s'il faut aller défendre nos principes démocratiques, il faut pas se dire que parce que Badinter est plus là, on a perdu une figure et que c'est la fin de l'histoire. Pas du tout. Pour moi, rien n'est écrit et par contre, les réactionnaires, les révisionnistes essayent de nous faire croire que la vague est trop haute et qu'on est impuissant face à ça. Et c'est pas vrai. Donc il faut retrouver un peu cette puissance liée à nos principes et retrouver ce qui nous solidifie. Et l'histoire de la table de l'état de droit, c'est ça en fait. On peut se reconnaître dans ces valeurs là parce qu'elles sont pluriséculaires et que justement le juge est la voix du peuple citoyen, c'est comme ça que je l'explique. C'est-à-dire qu'il y a le peuple électoral, donc il y a un désenchantement terrible du corps électoral. En revanche, on se reconnaît dans des valeurs qui ont été portées par des révolutionnaires, qui ont été portées par dans la Charte de l'environnement, qui est le dernier texte annexé à notre Constitution, qui ont été portées par la démocratie sociale en 1946, la Troisième République, qui était un moment de grande consécration, la liberté de la presse, par exemple. Mm-hmm. Donc toutes ces choses-là doivent redevenir des totems, en fait.
Je rappelle que vous avez failli rater le CP. Hein, quand même. Ça se pose là. Hein. Donc pas besoin de figure tutélaire aujourd'hui, une nouvelle figure, quoi, genre Éric Dupond-Moretti ou pas besoin de. Bon. Si vous nous rejoignez, je suis au bistrot. C'est Bistroscopie avec la magistrate Magali Lafourcade et lanceuse d'alerte sur l'état de droit. Elle publie La justice en procès aux éditions Les Petits Matins. Vous faites partie aussi du comité d'éthique du journal Le Monde. Ça doit être une vigie extraordinaire sur l'état de la presse, des médias, du journalisme en France, non ?
Oui, tout à fait. C'est absolument passionnant. Donc, je préside le comité d'éthique et de déontologie qui s'occupe, en gros, des droits et des devoirs des journalistes, mais aussi de veiller à ce que l'actionnariat ne puisse pas peser sur la ligne éditoriale. Alors là, au Monde, c'est extrêmement facile parce qu'il n'y a rien à faire. Tout a été extrêmement bien verrouillé. Mais je vois que dans d'autres organes de presse, ce n'est pas du tout facile. C'est un vrai problème parce qu'en fait, quand on parle d'état de droit et de danger de démocratie, enfin, le premier bastion à abattre, c'est la justice parce qu'elle est un contre-pouvoir et une garantie des droits et libertés les plus fondamentaux. Ensuite, il y a bien sûr la presse pour avoir une propagande qui va dans les intérêts des puissants et la société civile. Il y a le monde académique. En fait, c'est tous les bastions où on sanctuarise du fait. Et je suis aussi très inquiète de voir aussi l'évolution, enfin, les intimidations sur le service public, sur même Radio France, avec la commission d'enquête, avec aussi l'agressivité des journalistes de CNews, parce que on voit qu'à travers ça, il y a une volonté de donner la parole de manière pluraliste. Donc ça, c'est très bien, ça répond aux objectifs de l'ARCOM. Mais on sent que quand quelqu'un raconte n'importe quoi, les journalistes qui sont présents ont du mal à décortiquer et à dire comme s'ils étaient saisis. Et c'est comme ça que marche l'intimidation, c'est très insidieux. On empêche, en fait, les gens de faire leur boulot, parce que s'ils le font trop bien, ils vont être ciblés personnellement. Et ce mélange entre attaques personnelles, on l'a vu avec des journalistes très connus du service public, ces attaques personnelles, en fait, il en reste toujours quelque chose pour ceux qui sont moins courageux. Parce qu'ils le voient, c'est pareil dans la justice, c'est pareil dans la société civile, dans les associations, les syndicats. Il y a vraiment une régression. Et en France, on est aujourd'hui dans une démocratie qui est considérée comme défectueuse par les indices internationaux.
Oui. Magali Lafourcade, vous êtes aussi secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Encore une femme à un poste de secrétaire. Ça consiste en quoi ?
Alors, c'est passionnant. La CNCDH, c'est une vieille institution de la République, puisqu'elle est née en 1947, et elle a pour mission de conseiller les pouvoirs publics en matière de droits de l'homme. Donc, on peut dire qu'en ce moment, elle n'est pas très écoutée. Et surtout, de contrôler la façon dont la France s'acquitte de ses obligations internationales en matière de droits de l'homme.
Vous êtes payée pour la critiquer.
Exactement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait très, très bien. Et donc, ça, c'est dans l'enceinte des Nations Unies, mais aussi au niveau du Conseil de l'Europe. Et puis, on est aussi la commission du droit de la guerre, c'est-à-dire la commission nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire. Et en ce moment, vu la montée des périls, eh bien, il y a des questionnements pour vérifier que la France a les bons réflexes, que les personnes sont formées pour respecter le droit international humanitaire et pas commettre des crimes de guerre, par exemple. Mm-hmm.
Là, votre gros dossier, par exemple ?
Alors là, on est très inquiet de l'évolution de notre démocratie. Donc, on travaille beaucoup sur l'état de droit. Mais là, on vient sortir deux évaluations de politique publique sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et une autre sur les droits des personnes LGBTI+. Et dans les deux cas, ce qu'on constate de manière très nette, c'est à quel point les pouvoirs publics se sont désinvestis. Au niveau donc de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, c'est d'autant plus dommageable que depuis que cette politique publique avait été façonnée dans un plan, eh bien, il y a eu les attentats du 7 octobre et derrière une explosion des crimes, des délits antisémites et racistes, mais singulièrement antisémites. Et face à ça, on peut dire qu'il y a beaucoup de communication politique et très peu d'action.
Magali Lafourcade, vous êtes née de deux mondes opposés. Vous avez dit une famille de scientifiques. Alors, votre père, plutôt une famille intello bourgeoise.
Bourgeoise, oui.
Ouais. Et votre mère, elle a grandi au Mirail à Toulouse, oui, avec un père cheminot.
Et une maman à la maison, voilà.
Ah ouais, ça fait de vous quelqu'un d'un peu ambivalent?
Je pense que je suis à l'aise dans les deux mondes et je dois dire que c'est aussi une richesse d'avoir vécu avec ces deux approches-là. Et donc, quand j'allais chez mes grands-parents maternels ou paternels, c'était pas du tout la même ambiance. Hein. C'était vraiment deux salles, deux ambiances. Voilà, je pense que ça structure pas mal. Hein.
Ah oui. Et il vous vient d'où ce goût de la justice alors ?
Alors je crois que c'est vraiment quelque chose on ressent d'abord dans le ventre, c'est-à-dire que c'est pas un objet intellectuel avant tout, c'est vraiment le fait que quand vous êtes face à une injustice, ça vous révolte. Bah moi ça, je pense que je l'ai depuis très longtemps. C'est une manière de faire quelque chose, de dépasser aussi des moments qui ont été un peu durs pour en faire quelque chose de plus beau. Quand on voit comment ça résonne partout dans le monde, on comprend ce que c'est que l'universalité des droits humains. C'est-à-dire que vous rencontrez des gens d'Amazonie, du Bangladesh, ils vous parlent tous de la même chose. C'est-à-dire que c'est ça, l'universalité, c'est qu'il n'y a pas un être sur cette terre qui ne veut pas la reconnaissance de sa dignité humaine. Et quand vous vous rendez compte que ce langage, qui est aussi un langage juridique, est partagé par ces personnes qui ont un parcours de vie tellement différent, on se rend compte que ça vient de tellement loin. C'est pas né avec les déclarations des droits de l'homme au 18e ou au 17e siècle. C'est vraiment lié à l'histoire humaine, hein, l'histoire des tragédies, de cette révolte. Donc ce combat va forcément être prolongé. Je ne vois pas comment on pourrait dire qu'il y aura une parenthèse, hein, des droits humains et que ça va s'arrêter parce qu'il y a quelques populistes qui ont envie de mettre la force contre le droit au lieu de respecter la prééminence du droit.
D'ailleurs, parlons encore de ces populistes, parce qu'il y a un an, à peu près, Marine Le Pen était condamnée en première instance, ce qui vous a valu la visite de deux diplomates américains.
Tout à fait.
En lien avec ça, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là aussi, vous êtes lanceuse d'alerte. Vous avez dénoncé quelque chose qui vous est arrivé.
Oui, alors si j'ai lancé l'alerte, c'est parce que donc, j'avais été très frappée par cette rencontre, hein, où j'ai compris que le mot allié n'avait plus vraiment de sens, qu'il y avait une nouvelle donne géopolitique très, très nette. À ce moment-là, c'est palpable, hein, que les intérêts américains convergent de plus en plus avec les intérêts russes ou chinois autour de l'idée d'abîmer quand même l'Union européenne et que la France est une cible de choix dans ce monde-là et qu'on est particulièrement visé.
Vous, quand ces deux diplomates américains viennent vous voir physiquement,
ouais.
Vous sentez que c'est pour leur donner des petits tutos, des petits tips pour sauver Marine Le Pen, en fait.
Ah, tout à fait, puisqu'ils m'ont quand même demandé si la Commission nationale des droits de l'homme pouvait faire quelque chose. Donc, ils sont allés loin. Et puis, c'est surtout que ça a commencé aussi sur leurs priorités. On voit très bien qu'à ce moment-là, ils utilisaient le langage des droits de l'homme pour dire que, finalement, la liberté d'expression, ça valait pour la parole, les idées MAGA, qu'il fallait que ça devienne le centre du discours. La liberté religieuse, c'était essentiellement pour les chrétiens. Il y avait un questionnement sur nos droits autour de nos droits sexuels et reproductifs, hein, comme on les appelle en langage droit de l'homme, puisque Samuel Samson, qui était dans mon bureau, était celui qui avait nourri le discours du vice-président Vance sur le Royaume-Uni et les cliniques d'avortement. Donc il y avait tout ce champ-là, et ensuite il y avait l'idée que le principe d'égalité s'arrêtait là où l'impunité des puissants commençait, en quelque sorte. Et là, on était dans la situation pénale de Marine Le Pen, qu'ils analysaient comme un ban, hein, c'était le terme qu'ils utilisaient, avec l'idée que c'était pour l'empêcher de participer à l'élection. Et leur intérêt était très clair. Ils voulaient qu'elle puisse se présenter à l'élection. Et tout ce que je leur présentais du fonctionnement du système juridique, puisque moi, je ne donnais pas d'opinion sur l'issue du litige, ce n'est pas mon sujet. Je revenais toujours à ma fonction, c'est-à-dire les droits humains et l'état de droit. Et à chaque fois, ils étaient circulaires. Ils attendaient que je leur donne des billes.
Et donc, vous avez alerté le Quai d'Orsay, vous avez rendu cette information publique.
Voilà. Juste après, deux mois plus tard, il y a le juge brésilien qui avait condamné Jair Bolsonaro pour sa tentative de coup d'État qui a été placé sous sanction. Puis après, mon collègue Nicolas Guillou de la Cour pénale internationale. Et surtout, je me suis dit, j'allais dire que fait la police, hein, que fait le gouvernement? Alors j'ai vu qu'en février, Emmanuel Macron avait fait une lettre, hein, à Donald Trump pour lui demander de bien revoir l'analyse de la situation. C'est très rassurant. Et bon, voilà. Donc moi, en janvier, je me suis dit, mais en fait, nos concitoyens ne sont pas alertés. Alors que quand on voit le niveau d'ingérence, surtout dans les élections, il y a quelque chose de massif. Et donc,
Quelque chose de massif.
Oui, en Europe, depuis 2024, il n'y a pas eu une élection sans qu'il y ait des tentatives d'ingérence qui étaient documentées. En Roumanie, il y a quand même eu un accident industriel avec une annulation de l'élection. Là, on a quand même des alertes sur les municipales qu'on vient de passer. On a toutes les chances de penser qu'en 2027, il y aura aussi des ingérences. Et ce qui est troublant, c'est qu'autant les ingérences russes, on voit bien comment ça fonctionne, etc., autant pour les ingérences américaines, c'est plus compliqué puisqu'on n'a pas accès à la boîte noire des algorithmes. Et là, par exemple, on peut s'interroger sur le score qu'a fait Sarah Knafo à Paris, qui a un score assez élevé par rapport à la sociologie de Paris, surtout par rapport à son concurrent du RN qui a fait, je crois, 1,65%, alors qu'elle a passé la barre des 10%. Et quand on regarde le niveau de vue de ses publications en janvier-février 2026, ces publications ont totalisé 24 millions de vues, alors que c'est 4,4 millions pour les publications de Rachida Dati sur ses comptes des réseaux sociaux, alors qu'elles ont à peu près le même nombre de followers. Donc là, on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose au niveau des algorithmes qui peut expliquer ce différentiel. Est-ce qu'on est dans le cadre d'un astrosurfing, hein, donc c'est quand on visibilise, on crée artificiellement une bulle pour donner l'impression d'une adhésion massive à un message, ou est-ce que tout ça est totalement normal? Et on ne peut pas le savoir, c'est ça qui est troublant, parce que pour ça, il faudra accéder à la boîte noire des algorithmes et savoir si ça a été artificiel ou si ça a été juste la logique de l'algorithme qui gonfle des contenus anxiogènes. Et donc, ce trouble conduit les gens à douter de leurs institutions. C'est pas forcément le résultat qui est attendu, c'est le doute sur les institutions, la fragmentation du corps électoral. Donc c'est un enjeu qui concerne toute l'Europe, mais avec des degrés très différents, avec pas tout à fait les mêmes acteurs, et avec le fait qu'avec l'intrusion des Américains dans cet objectif, c'est très clair, hein, dans leur stratégie nationale de sécurité, ils ont dit qu'il fallait soutenir des partis qui étaient des partis alignés sur les intérêts MAGA, c'est les partis d'extrême droite, c'est les partis eurosceptiques. Donc la doctrine est posée, et maintenant les vecteurs, on les connaît aussi, et il faut que le grand public soit pleinement informé de cela, parce que dans les pays qui ont décidé de travailler là-dessus, je pense aux pays nordiques, je pense aussi à Taïwan vis-à-vis de la Chine, ils ont décidé de faire des citoyens le premier maillon de la chaîne pour lutter contre les ingérences. Et nous, on est encore à des années-lumière. Pour nous, c'est quelque chose qui relève des questions du renseignement, mais pas des questions citoyennes ordinaires. Il faut en faire un sujet appropriable par tout le monde.
Magali Lafourcade, on arrive tout doucement à la fin de cet entretien passionnant. Vous avez 4 enfants.
Oui,
quatre garçons. C'est du boulot, et 4 garçons.
Élevés dans le féminisme.
Oui. Oui, d'ailleurs, vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule « Démasculiniser la justice », que je vous conseille aussi, chers auditeurs. Vous parlez des choses du monde et de la justice avec vos enfants, j'imagine.
Oui, alors les deux petits sont encore trop jeunes, mais pour les grands, on a énormément de conversations là-dessus. C'est très intéressant de voir comment eux, ils perçoivent leur niveau d'indignation face à certaines évolutions du monde. Donc on en parle beaucoup.
Elles sont élevées, leur indignation.
Ah ouais, et ouais, ouais. Elles sont très très indignées, et pour moi c'est très rafraîchissant de voir à quel point eux aussi portent ce sentiment d'injustice en fait face au travers du monde.
Et dites-moi, est-ce que quand vous prenez une décision qui leur convient pas, ils plaident?
Oui. Alors en plus, parce que souvent je leur fais jouer au jeu où chacun a une position contraire, et ils essayent de trouver les niveaux d'arguments. Voilà, on s'amuse beaucoup à ça dans les dîners de famille, et donc ils plaident beaucoup. On a eu des débats mais très compliqués sur est-ce que le fait d'avoir un téléphone portable était un droit de l'homme ou pas. Donc non, la réponse est non. Et s'ils écoutent, je rappelle. Et puis aussi sur l'idée d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Pour mon 12 ans, je lui explique que maman est magistrate, donc elle respectera la loi, évidemment. Voilà, les débats sont riches.
La relève est là.
Voilà.
On peut regarder aller de l'avant. Merci beaucoup, Magali Lafourcade.
Avec grand plaisir.
Je rappelle votre ouvrage qui s'intitule « La justice en procès », paru aux éditions Les Petits Matins, et qui est un petit manuel pour vous aider chacun aussi à défendre cet état de droit. Merci beaucoup. Je remercie l'équipe. Cette émission vous parvient dans les oreilles grâce à Ophélie Vivier, chargée de programme, Stéphane Ronxin à la réalisation. Merci à Florent Bujon pour la prise de son, Théo Delobadère au mixage, Christine Anzano à la documentation. Et moi, je vous retrouve samedi prochain à 19h20. Si cet apéro vous a plu, abonnez-vous au podcast de Bistroscopie ou à celui de ma chronique, Charline explose les faits. Je vous rappelle que c'est avec vos impôts, donc c'est limite de l'optimisation fiscale.